Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Quand les restrictions se multiplient en Europe, le vaccin de Moderna suscite l'espoir face au Covid-19. Le laboratoire américain a un patron français. Il nous expliquera comment les tests ont été réalisés, grâce à quel argent, quand l'OMS rappelle qu'un vaccin n'éradiquera pas le virus. Dans cette édition encore, réaction d'une association pour aider les personnes en situation de handicap. Hier, un comité interministériel promettait quelques mesures sans prendre en compte la difficulté de télétravailler en ce moment pour ces salariés. Réaction aussi dans cette édition de France Fraternité, alors que 2000 migrants sont en train d'être évacués d'un camp. Cela se passe au nord de Paris en ce moment. Et puis que se passe-t-il au Sahara occidental? Hier, la situation restait confuse après des tirs croisés le long du mur qui scinde le territoire disputé. Après Pfizer et le vaccin russe, la semaine dernière, c'est donc Moderna qui a fait l'événement hier en publiant des résultats partiels de tests menés sur son projet de vaccin anti-Covid. Il sera efficace à près de 94,5% selon un communiqué mis en ligne. Pour obtenir ce chiffre, Moderna s'appuie sur les 95 volontaires de son essai. Stéphane Bancel, le patron français de Moderna, espère que ces résultats définitifs pourraient aboutir d'ici la fin du mois pour de premières injections aux États-Unis dès Noël. Ce sont d'ailleurs les États-Unis qu'il souhaite remercier, eux qui ont investi massivement. Écoutez Stéphane Bancel, le patron de Moderna.
Le gouvernement américain a payé toutes les études cliniques et ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Parce que généralement, ce que vous faites, c'est avant de passer d'une étape, on va dire de phase 1 à une étape de phase 2, vous attendez de savoir, bien sûr, la sécurité du vaccin d'abord, mais aussi le niveau d'anticorps. Mais ça prend des mois. Et une fois que vous avez vos anticorps, si ça marche, vous allez commencer à fabriquer le produit pour la phase 2. Et tout ça prend encore des mois. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre cas-là? On a commencé à fabriquer les flacons pour la phase 2 pendant que la phase 1 démarrait, mais sur des coûts de 20 ou 30 millions de dollars payés par le gouvernement américain. Et la phase 3, c'est pareil. La phase 3, elle va finir par coûter sans doute 800 millions de dollars, 100% financé par le gouvernement américain. Et quand on va déposer le dossier donc en Europe pour protéger donc la population française, ça va être en fait un cadeau du gouvernement américain parce qu'on va déposer les données américaines à l'agence réglementaire européenne. Il n'y aura pas eu un euro de support pour les études cliniques des pays européens, pas un euro. Et donc, les pays qui ont participé rapidement, comme je disais, le Canada, les US, à payer une partie de la commande en prépaiement pour nous permettre d'acheter les matières premières, nous ont beaucoup aidés.
Voilà pour l'espoir et les promesses de la part de Moderna. Cela veut-il dire que la partie est en passe d'être gagnée contre le Covid-19? Non, selon l'Organisation mondiale de la santé, son patron, le docteur Tedros, prévient « le vaccin n'est qu'une arme parmi d'autres ».
Un vaccin en tant que tel ne mettra pas fin à la pandémie. Au début, les stocks seront limités. C'est pour cette raison que les personnels de santé, les personnes âgées et les autres personnes à risque seront prioritaires. Ça devrait permettre, espérons-le, de réduire le nombre de morts et de permettre au système de santé de faire face. Mais le virus gardera dans tous les cas une grande liberté de mouvement. Nous allons devoir poursuivre la surveillance. Nous allons devoir continuer à tester, isoler et traiter les malades. Il faudra encore tracer les contacts et les mettre en quarantaine. Et les gens devront rester vigilants.
Alors en attendant ces protocoles, le virus circule lui toujours activement. Mesures sanitaires renforcées aujourd'hui en Autriche, en Allemagne et même en Suède, pays qui jusque-là n'avaient pas pris de protocole fort. En France, les contaminations baissent en revanche, lentement. Les bars et les restaurants fermés depuis des semaines maintenant pourraient avoir un peu plus de visibilité en début de semaine prochaine. Et les bars et les restaurants pourraient ne pas rouvrir avant la fin de l'année. En tout cas, le ministre de l'Économie l'a laissé entendre hier aux représentants des restaurateurs. Les députés entament aujourd'hui des discussions sur la loi sécurité globale et sont très controversés, article 24. Article qui prévoit notamment de punir la diffusion dans un but malveillant d'images de policiers ou de gendarmes en opération. Journalistes et autres professionnels de l'image dénoncent une atteinte sans précédent à la liberté d'informer. Nous y reviendrons en longueur dans le journal de 7h. D'ici là, 6h34, penchons-nous sur les promesses du gouvernement pour les personnes personnes en situation de handicap. De nouvelles aides pour mieux concilier handicap et parentalité ont été annoncées hier. Idem pour un soutien prolongé aux embauches, mais rien sur les aides au numérique en ces temps de généralisation du télétravail. De nombreux logiciels et outils n'ont pas été adaptés pour les déficients visuels, par exemple, un handicap qui s'ajoute donc à un autre. Écoutez la déception à ce propos de Pierre Maragou. Il préside l'association APIDV, accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels.
C'est aussi une question de discrimination. Et évidemment, dans certains cas, ça complique énormément les relations de travail ou particulièrement le travail collaboratif. Je parle par exemple de Google Doc ou de ce type d'application. Eh bien, ces applications-là, on peut quasiment pas les utiliser lorsqu'on utilise un ordinateur vocalisé ou une plage braille. Les applications spécifiques à certains métiers, par exemple le logiciel Pronote ou le logiciel Maclass pour les professeurs qui sont aveugles ou malvoyants, ou encore certains logiciels de ressources humaines pour les personnes qui sont gestionnaires RH. Sur ces logiciels-là, on avait de grosses difficultés. Clairement, depuis le premier confinement, on a fait très très peu de progrès. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on publie un manifeste et on râle un petit peu, voire on râle beaucoup, parce que 6 mois après, le sujet n'a pas bougé. On a un aveugle sur deux en âge de travailler qui est au chômage. C'est une question de discrimination et donc c'est une question qui doit être prise en compte sérieusement, à la fois par les entreprises et les pouvoirs publics.
C'était Pierre Maragou qui répondait à Thomas Giraudeau. 2000 migrants d'un campement installé au pied du Stade de France près de Paris sont en train d'être évacués ce matin. Il s'agit en grande majorité d'Afghans, mais aussi de Somaliens, Soudanais ou Éthiopiens. Sous des bâches en plastique ou des tentes de fortune, ces réfugiés sont des primo-arrivants. Quelques transfuges également, de camps déjà démantelés il y a quelques mois dans le nord de la capitale, Porte de la Chapelle notamment. Cécilia Arbona a joint à ce propos celui qui a été président de France Terre d'Asile pendant 24 ans et qui est aujourd'hui à la tête de l'association France Fraternité. Il s'agit de Pierre Henry. Pierre Henry se désole des évacuations successives qui ne règlent rien, dit-il.
C'est une répétition depuis maintenant 5 ans où à Paris, nous voyons des campements s'installer avec des gens qui vivent dans le plus complet dénuement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de toilettes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de quoi se laver. Si les pouvoirs publics pensent que maltraiter les gens dans l'accueil va dissuader qui que ce soit, c'est évidemment une erreur fondamentale. Et à ce jeu-là, on perd sur tous les tableaux, sur celui de nos valeurs, et on ne règle évidemment aucun des problèmes qui nous est posé.
C'était le président de l'association France Fraternité, alors qu'un camp de 2000 migrants est donc en train d'être évacué ce matin au nord de Paris. Partons à présent au Sahara occidental, source de tensions en ce moment entre le Maroc et le Front Polisario. Le roi du Maroc a mis en garde hier contre toute menace à la sécurité de son pays, et ce après des échanges de tirs entre troupes marocaines et indépendantistes dans la région du Sahara occidental. Le Maroc et le Front Polisario ont en fait rompu le cessez-le-feu dans cette ancienne colonie espagnole après l'incursion ces derniers jours de l'armée marocaine dans une zone tampon à la frontière avec la Mauritanie. Le Maroc souhaitait en fait y restaurer un trafic routier. Les précisions d'Omar Ouaman.
Cela faisait plusieurs semaines que des civils sahraouis présentés par Rabat comme des miliciens du Front Polisario bloquaient la route transfrontalière qui mène vers la Mauritanie, un axe essentiel pour les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Les indépendantistes sahraouis accusent les autorités marocaines de piller leurs richesses. Le Sahara occidental en regorge, phosphate, or, cuivre ou manganèse. En usant de la force pour rétablir le trafic routier, le Maroc dit agir en toute légalité dans ce qu'il appelle ses provinces du Sud, un territoire jadis sous domination espagnole avant que Rabat ne l'annexe. Supérieur sur le plan militaire, le Maroc s'expose désormais à des attaques des militants du Front Polisario parrainés et armés par l'Algérie voisine, des Sahraouis qui disent ne plus être tenus par le cessez-le-feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU. Les Nations Unies chargées également d'organiser un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, référendum que le Maroc a toujours refusé, préférant lui accorder une autonomie sous sa souveraineté. Rabat peut compter dans ce dossier sur le soutien des États-Unis et des Européens au nom de la lutte contre le terrorisme.
C'était Omar Waman. Quelques mots pour finir de ce qui se passe en ce moment au-dessus de nous. La capsule Dragon de SpaceX transportant 4 astronautes s'est arrimée avec succès cette nuit à la station spatiale internationale. Sachez qu'en revanche, c'est un échec pour le lanceur européen Vega qui devait mettre en orbite 2 satellites pour le compte de l'Europe cette nuit depuis Kourou. Il a essuyé une anomalie dans sa trajectoire d'après Ariane Space. Le temps sera sec ce mardi au-dessus de la France métropolitaine, avec des nuages bas au nord de la Loire, un ciel à peine voilé plus au sud, avec 7 degrés ce matin à Strasbourg et Lyon, 9 à Bordeaux, 11 degrés à Paris et 14 à Nice.